Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes bien sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope 97FM. Et ce soir, au micro, vous avez
Emma
et Émilie. Et en technique, Noémie et Myriam.
Donc, 97FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet. Donc Calibre, c'est une émission de Libre Antenne. Pour ceux et celles qui connaissent bien, on va quand même rappeler quelques principes. C'est donc une Libre Antenne, hein, comme l'indique son nom. Vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09. Et c'est une antenne libre sur les questions d'amour, de corps, de sexualité, etc. etc. Et voilà, notre slogan, c'est un peu sans tabou ni jugement. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On va continuer à nous expliciter ça tout au long de l'émission. On vous a concocté un petit patchwork de sujets divers et variés qui seront rythmés par des petites pauses musicales. Voilà, du coup, on va commencer par une première musique. N'hésitez pas à appeler, même à nous couper, même si on est en plein sujet et qu'on a l'air passionné, il faut pas hésiter à appeler, même si voilà, ça vient un peu perturber le déroulement de l'émission, parce que nous, de toute façon, c'est ce qu'on préfère, c'est quand vous nous appelez. Donc là, on va écouter Dark Dark Dark, Something for Myself.
Thank you.
Et voilà, c'était Dark, Dark, Dark. Alors, j'en profite pour remercier la personne qui m'a fait découvrir ce groupe parce que j'aime bien la voix de la fille qui chante. Et puis, je trouve que c'est beau. C'est un peu émo, hein. C'est un peu... Mais voilà, ça, c'était pas mal pour démarrer l'émission. Donc, vous écoutez toujours Calibre, 97FM à Grenoble, la libre antenne sur l'amour, les corps, les sexualités, les relations, etc., etc. Vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 0 09 09 09. Et là donc on va vous parler de mariage.
Voilà.
Pour ça c'était approprié la musique. Alors pas n'importe quel mariage, c'est le mariage à durée déterminée. Donc voilà, on
comme
est dans un voilà. Qui dit société capitaliste dit modification des mœurs, y compris quand il s'agit d'institutions un peu comme ça, traditionnelles, comme le mariage. Et du coup, donc c'est, là, on va vous parler de l'expérience qui est en cours à Mexico, donc au Mexique. L'Assemblée qui est là-bas décide les lois, etc., a été soumise à une proposition faite par le maire de Mexico, qui propose voilà des mariages à contrat déterminé. Et donc voilà, ces mariages, comment ça se passe? Alors c'est des contrats qui durent 2 ans entre 2 personnes consentantes qui décident de s'essayer à la vie de couple maritale, quoi. Et donc, le contrat est assez précis et décline tout un tas de détails pratiques, à savoir comment se ferait la séparation des biens en cas de désunion, la garde des enfants, le montant de la pension alimentaire, et éventuellement dans quelle religion seront élevés les enfants, etc., etc. Du coup, les personnes peuvent détailler tout ce qu'elles veulent dans ce contrat. Et si au bout des 2 ans, finalement, elles décident que ça le fait pas, et ben, le contrat s'arrête et ça va pas plus loin que ça. Alors, voilà comment ça se passe. C'est présenté comme une évolution un peu moderne, en fait, et progressiste suite aux constats de réalité, en fait, qui sont que à Mexico, 90% des couples qui se marient se séparent dans les 2 premières années de l'union. Et du coup, là, l'idée, c'est de réduire le nombre de divorces, parce qu'ils aiment quand même pas trop les divorces. Et donc, c'est aussi pour désengorger les tribunaux, simplifier les procédures, voire les éliminer complètement. Alors nous, on trouvait que c'était marrant de parler de ça. Bon, je vous passe les détails parce que, en fait, vous imaginez bien, l'Église est fortement opposée à cette idée-là. Elle dit que ça vient salir un peu l'idée du mariage, que c'est pas comme ça que ça se passe. Le mariage, c'est pour la vie, etc., etc. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une proposition qui est faite. Ça devrait être voté d'ici la fin de l'année. Et voilà, nous, on trouvait que c'était rigolo de dire un peu ce qu'on en pensait. Et puis, à quoi ça nous renvoie qu'est-ce que c'est que cette idée de CDD, y compris dans le mariage. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Émilie?
Moi, je vois. Bon, c'est vrai que c'est. Moi, ça m'évoque quand même des choses où je me dis, ah oui, tiens, il y a des arguments là, en lisant un peu là-dessus. Je me dis, ah oui, il y a des arguments auxquels je me dis que je suis sensible, quoi. Je vois comment des personnes galèrent sur des divorces, à devoir gérer la séparation des biens, de l'argent, comment on fait pour les enfants, comment on fait. Et c'est des procédures qui sont hyper longues et sur des moments qui sont douloureux, quoi. Et du coup, je me dis, ah oui, tiens, ça peut. Quelque part, alléger ça. Là, j'ai des expériences de personnes autour de moi qui ont chié dans leur divorce et qui en chient encore des années après. Je me dis, bon, peut-être qu'il y a un truc là où peut-être c'est plus léger. Après, ce que tu dis sur l'aspect libéral là, et de ce truc de consommation du mariage et de... Bon, oui, je me dis, oui, en effet, ça vient coller quelque chose de durée déterminée là sur un contrat, sur des, ce que tu évoques, c'est des choses qui sont vachement matérielles. Après, moi, je trouve quelque part, je trouve ça intéressant, mais pas que du coup pour le contrat de mariage ou l'aspect formel des choses, cet aspect, bon, tu me diras peut-être que t'es pas d'accord, mais sur cet aspect d'entrer en relation et de savoir en fait que c'est pas de pas fantasmer l'amour éternel. Je pense qu'il y a pas que l'Église qui pense à ça à travers le mariage. Il y a aussi plein de visions de l'amour comme ça où en fait on se retrouve hyper démunis quand il y a une séparation ou une fin de l'histoire et de je sais pas de je me dis tiens ça vient coller à des réalités aussi que ben ouais les relations de couple durent pas forcément toute la vie se promettre de d'être tout le temps ensemble de s'aimer toujours jusqu'à la mort bon c'est aussi peut-être à remettre en cause comme concept au-delà de ce truc d'institution du mariage. Moi, je me dis, tiens, en fait, des formules de relation, il y en a plein. Et en effet, se redire au fur et à mesure de qu'on est en relation de est-ce que ça le fait toujours ou pas, ou est-ce que ben c'est important, quoi. Et bon, qu'on vienne l'instituer dans le mariage, voilà, ça apporte un truc administratif à ça. Voilà.
En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans cette idée-là, bon, moi, le mariage, personnellement, ça ne me fait pas forcément rêver, mais je me dis que peut-être pour les gens que ça fait rêver ou pour qui c'est quelque chose d'envisageable et de chouette, je trouve que c'est intéressant d'introduire cette notion de l'idée de la fin de la relation, que c'est possible, que ça s'arrête à un moment, et du coup, comment on anticipe pour souffrir le moins possible et établir des choses clairement sur justement les aspects matériels qui sont souvent les aspects qui nous plombent en fait dans les cas de séparation et je pense aux couples qui ont des enfants ça complique énormément la donne quand t'as un enfant avec quelqu'un après dans la vie parce qu'on voit bien qu'il y a des guerres de tranchées autour de la question des enfants dans les cas de séparation et puis après voilà quand les gens achètent des baraques ont des biens en commun qui ont une certaine valeur ça peut vraiment créer des fortes tensions. Du coup, d'anticiper ça et de se dire, bon, maintenant, on a vu ça, on le met un peu de côté et maintenant, on vit notre truc, c'est pas mal, quoi. Ça permet d'évacuer les potentiels conflits à venir, quoi. Après, c'est vrai que moi, je crois que ce qui me fait un peu tilter, c'est que je peux pas m'empêcher de penser que c'est une évolution un peu triste des modèles libéraux qu'on a intégrés en fait et que c'est un modèle capitaliste en fait de toujours envisager le non-engagement et oui c'est ça que en fait les choses elles ont un caractère précaire à durée déterminée et du coup on va faire en sorte de plutôt favoriser les intérêts économiques à savoir désengorger les tribunaux voilà, ce genre de choses qui sont pas très réjouissantes, en fait, dans le cadre des relations. Mais bon, et puis peut-être que j'ai un petit côté fleur bleue aussi, où je me dis, c'est pas très... Enfin, bon.
C'est peut-être là-dessus, ouais.
Ouais, peut-être
qu'on n'a pas le même point de vue.
Ça, ouais. Mais je pense que les personnes qui ont un peu... déployer leur foudre sur cette proposition-là, il y a aussi ce fond-là, que c'est un aspect complètement anti-romantique, en fait, d'envisager ça. Et bon, voilà. Après, en tout cas, moi, j'en retire quand même quelque chose de globalement positif, parce que je me dis ça ouvre l'éventail des possibles, l'éventail des choix possibles, en fait, pour les personnes. Après, je trouve que ce serait quand même bien de s'interroger sur ce que c'est le mariage et pourquoi on veut absolument concevoir les unions en termes de mariage et de vie maritale, de vie commune, sous un même toit. Voilà, on pourrait aller plus loin, en tout cas, dans la réflexion.
Mais sur ce que tu disais des foudres, moi je me suis questionnée en recevant un peu ces infos-là aussi, je me suis demandé, est-ce que ça concerne tous les couples ou uniquement les couples hétérosexuels ? Donc j'ai été voir un peu aussi comment Mexico se situait là sur la cartographie des droits LGBT, nanana, quelle position à Mexico vis-à-vis du mariage gay. Et c'est assez particulier quand même, j'ai eu du mal un peu à saisir, enfin, ce que j'ai cru comprendre, cette loi, y compris, mais sur le mariage à CDD, là, mais aussi sur le mariage gay, donc qui est passé à Mexico, hein. En Mexico, par exemple, le mariage gay et lesbien est reconnu. Par Mexico et pas par le reste du Mexique.
Mais donc le maire de Mexico a longtemps milité pour la, pour le mariage gay. Et il a perdu quoi, au niveau du pays.
Au niveau du pays, voilà. Mais au niveau de Mexico, oui, voilà. il a gagné sur sa commune. Enfin, sa commune de Mexico, c'est quand même une grande ville. Mais
18 millions de personnes.
Depuis 2009, je crois, c'est ça, 22 décembre 2009, c'est passé. Et du coup, voilà, ils ont des... Comme ça aussi, il y a beaucoup de la sphère catho qui réagit, mais il y a aussi, du coup, le gouvernement mexicain qui réagit, mais qui ne peut pas poser des vétos sur les lois qui peuvent passer dans Mexico. Donc, en fait, voilà, il y a des droits qui sont dans ce pays qui sont applicables dans la ville de Mexico et pas sur le reste
l'ensemble du territoire. Ouais.
Donc il y a des comme ça, en tout cas sur.
Mais c'est un État fédéral, voilà. Donc de toute façon c'est vrai aussi pour d'autres d'autres sujets en fait au Mexique. Bon voilà, moi oui voilà un autre aspect que je voulais un peu développer, c'est ce qui me fait un peu aussi tiquer sur cet aspect CDD, c'est que quand je fais le parallèle avec le monde du travail, je me dis c'est quand même les CDD par exemple, les contrats à durée déterminée, ça a massifié la précarisation de pas mal de personnes et notamment les femmes qui sont à qui on impose généralement des temps partiels, des CDD dans leur travail et tout ça alors qu'elles l'ont pas forcément choisi. Et je me dis tiens, si on plaque un peu cette analyse là, dans quelle mesure les rapports de genre et les rapports de pouvoir qui sont en jeu, y compris dans les relations et dans le cas du mariage, dans quelle mesure ça vient pas intensifier aussi ça, les rapports de domination, à savoir qui va se faire jeter au bout des 2 ans. Je veux dire, tu vois, un truc de... si une des deux personnes s'était un peu projetée et a trouvé goût, en fait, dans cette union, et que l'autre peut la jeter assez facilement, c'est aussi pas très sympa, quoi. C'est... En tout cas, cet aspect de non-engagement total et de légèreté comme ça, ça n'a pas forcément que des bons côtés. Après, de toute façon, si l'autre il veut te plaquer, il te plaquera même si t'es marié de manière permanente. Donc, bon, voilà. Mais ça m'a fait penser aussi à ça quand même. Juste pour signaler, cette pratique-là, elle n'existe pas que au Mexique. J'ai fait des recherches aussi un petit peu et j'ai vu qu'en Iran, c'est aussi quelque chose qui existe, le mariage à durée déterminée. Alors là, pour quand même d'autres raisons, alors on va peut-être pas développer plus que ça, mais en tout cas, dans la religion musulmane, il existe ce type de contrat-là qui permettent d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dans le cadre du mariage et de pas attendre de se marier de manière définitive. Et ça faciliterait l'accès à la sexualité, notamment des jeunes qui sont dans une situation là où ils peuvent pas avoir de sexualité hors cadre du mariage parce que c'est interdit et pénalisé en fait, voire criminalisé. Et du coup, ça permettrait une sorte d'arrangement entre des personnes qui veulent avoir une relation plus ou moins éphémère, de pouvoir avoir une sexualité. Et c'est un contrat de mariage qui peut aller de 1 heure à 99 ans, quoi.
Ah oui.
Donc voilà, mais il faut qu'ils contractualisent ce mariage pour pouvoir avoir une relation sexuelle, quoi.
D'accord.
Bon, on pourrait dire plein de choses autour de
et
ça.
Si tu peux signer un contrat de mariage pour 1 heure, tu peux faire 1 heure.
Alors en fait, ils signent pas forcément. Non. Ça peut être fait totalement dans le secret entre les deux personnes qui prononcent, je sais pas comment ils font, tu vois, il y a une sorte de rituel, je pense, qui prononcent leur mariage et hop, après ils peuvent baiser et après ils peuvent arrêter leur union. Voilà, ouais, il y aurait plein de choses à dire autour de ça, mais on va peut-être pas.
Oui, puis je pense que les raisons culturelles sont pas du tout les mêmes
voilà,
en Iran qu'au
Mexique.
Voilà,
c'est ça. En tout cas, le contexte est pas du tout le même. Et après, cette idée-là du mariage à durée déterminée, elle a parcouru un peu le monde apparemment. Et en Allemagne, par exemple, c'est discuté en ce moment. Il y a pas mal de critiques aussi de la part de la députée qui propose ça. Peut-être ça va arriver en France. Donc voilà, okay. On va poursuivre avec une petite musique qui est tout à fait appropriée.
Alors oui, c'est « Dis-moi que tu m'aimes », enfin une reprise de « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà. En effet, très à propos de la question de l'amour et du mariage, hein, n'est-ce pas? Un contrat déterminé. Oui.
Et d'ailleurs, en parlant de mariage.
Oui, juste en passant, vous pouvez aussi. Alors, justement, l'émission de demain de On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédagogine de Lyon, fait une émission sur la question du mariage. Du coup, c'est plutôt. Dans ce que j'ai compris de ce qu'ils vous annoncent, c'est autour des droits au mariage pour les gays et les lesbiennes, mais bon, avec sûrement un avis un peu critique, voilà, sur est-ce que c'est une priorité aujourd'hui dans les luttes LGBT, tout ça. Donc voilà, c'est entre 5 et 6 heures demain soir et
sur Radio Canu.
Et puis, moi, j'avais envie de vous parler d'autre chose, un autre sujet. Ça se passe cette fois à Toronto, au Canada. C'est un enfant qui s'appelle Storm,
Ça veut dire orage en anglais.
Ça veut dire orage. Alors en effet, cette naissance a provoqué des orages. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc là, c'est un enfant qui doit avoir une dizaine de mois aujourd'hui. Mon article est un petit peu périmé. Hein. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais j'avais envie de vous en parler. C'est un enfant dont les parents ont refusé à la naissance, enfin et depuis la naissance et je sais pas jusqu'à quand, enfin de divulguer son sexe. Donc personne ne sait, bon à part les deux parents, les frères, les grands, enfin à part la famille très très proche et la sage-femme, j'imagine, la personne qui a accouché l'enfant. Personne ne sait si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc voilà. Et donc les raisons sont très claire et très revendicative, hein. C'est pour pas qu'on colle sur cet enfant des comportements, de le considérer différemment de si c'était un garçon ou si c'était une fille. Bon, on a déjà un petit peu parlé de ça dans Calibre, de comment, en fait, en fonction du sexe, même d'un très jeune enfant, en fait, eh ben, on va se comporter différemment. On va coller des intentions ou des émotions. Soit de peur, soit de tristesse, si c'est une fille, soit de colère, soit de fierté, enfin plutôt chez les garçons, pour le même cri ou le même pleur, bon, des choses comme ça. Du coup, voilà, cette famille a fait ce choix-là de poser ça comme ça, de dire à personne qu'est-ce que cet enfant avait dans sa couche comme sexe. Et voilà pour la petite anecdote. Moi, ce que je trouvais intéressant, bon, au-delà de l'anecdote, de vous raconter ça, c'était pas la seule famille à faire ça. Il y avait déjà un couple en Suède qui avait déjà fait ça aussi. C'est en effet les foudres qui ont eu lieu dans leur entourage de stupeur, en fait, de pas savoir, en fait. Du coup, je vous ai amené quelques petites...
De colère, d'indignation.
Du coup, j'ai une petite liste, là. Je vais vous donner un peu quelques réactions qui ont traîné sur le net. Je crois que l'article, en tout cas que j'avais trouvé, il y avait plus de 80 commentaires et des trucs... des fois allant dans un plutôt en soutien et puis la plupart du temps assez
virulent.
Assez virulent. Par exemple, que ces gens-là ne viennent pas ensuite utiliser l'argent de mes taxes pour payer plus tard à l'enfant une psychothérapie. Voilà, ça c'est un exemple de retour qu'ils ont eu. Ils ont appelé leur enfant Jazz, Kyo et Storm. Bon, voilà, il y a aussi les deux frères. Et ils ont rendu leur histoire publique, manifestement. Ils étaient en manque d'attention et là, ils en reçoivent. Voilà. Élever des enfants androgynes, c'est erroné. Point à la ligne. Il faut célébrer la beauté des enfants tels qu'ils sont. Et cela inclut leur genre. quelle toilette l'enfant utilisera-t-il une fois à l'école? Si ma fille allait à son école et que je découvrais qu'un enfant pourvu d'un pénis utilise les mêmes toilettes qu'elle, je serais furieuse. Oui, bon, ce qui se passe dans les toilettes de la maternelle, c'est assez intéressant, généralement, quoi. Bon, ouais. Voilà. D'autres réactions que j'avais trouvées intéressantes aussi. Les histoires de genre, c'est une problématique typiquement adulte. Ben justement, enfin là on parle d'un enfant, du coup voilà.
Bon, bref, qui n'est pas genré.
Je fais des commentaires sur les commentaires. dommage de monter une décision personnelle en affaire d'État, alors que ça aurait dû rester privé. Et faire de cet enfant qui n'a rien demandé une bête de foire, un enfant cobaye. Ou encore, oui, ce sont des hippies, très certainement. C'est une démarche extrême.
Ou des punks, certainement.
Je trouve cette opération très intéressante, tant que ça ne concerne pas mon gamin. Voilà, et encore une qui est un petit peu longue, mais qui est un peu, ouais, qui est assez... en parlant des parents aussi, c'est juste des couilles molles, propositions pour aller au bout de leur logique libérale et individualiste. Pas de prénom, les enfants décident, changent quand et comment ils veulent. Pas d'horaire imposé, lever, déjeuner, coucher, ils font quand et comment ils veulent. Pas de jouets, ni télé, ni d'iPad. Et compagnie imposée. Ils se débrouillent avec ce que la nature leur offre. possibilité et liberté éventuellement de greffer un deuxième sexe si l'enfant souhaite avoir celui de sa sœur ou de son frère en plus, ou celui de son chien. Pas de jaloux, ne surtout rien imposer, etc., etc., etc. Bon, voilà des exemples à l'appel de réactions que ces personnes ont eues. Juste, voilà, en essayant d'épargner cet enfant, d'avoir... des retours sociaux de ce qu'induit d'avoir un sexe, quoi. Et voilà, très intéressant. très intéressant. Moi, ça m'évoque quand même que c'est pas gagné, quoi. Ça a une telle importance pour les gens qui sont prêts à être hyper violents. Ça leur fait une violence telle qu'ils sont capables d'écrire n'importe quoi. Mais en fait, oui, c'est une des premières questions qu'on pose, en fait, à la naissance d'un enfant. Bon, c'est une fille ou un garçon ? T'achètes un jouet pour quelqu'un ? C'est une fille ou un garçon ? Et dans la rue, t'es une fille ou un garçon ? Bon, voilà, c'est tellement intégré dans l'identité que s'il n'y a pas de référence, ben, voilà, voilà, c'est... Ça t'évoque, toi ? Enfin, qu'est-ce que t'as, toi, tu t'aurais à en dire, Adeline ?
Bah, en fait, ça nous fait beaucoup rigoler ces réactions, mais ça doit être dur pour la famille en question, je pense. Moi, bah, évidemment, je trouve que c'est hyper courageux parce que c'est quand même... bon, pour le vivre en ce moment, justement, enfin, quand t'es parent, c'est effectivement la question récurrente, en fait. C'est... Enfin, tu ne peux pas passer à côté de cette question-là. On te demande toujours si ton enfant, c'est un garçon ou une fille, tant que ça se voit pas. Physiquement ou que c'est pas clair et qu'ils arrivent pas à reconnaître et puis si la personne se trompe, elle se confond en excuse après d'avoir pris ton garçon pour une fille ou l'inverse, et c'est je pense un travail de tous les jours d'avoir choisi de faire l'impasse là-dessus. C'est hyper courageux et je pense qu'ils doivent avoir 10 fois par jour des difficultés directement liées à ce choix-là. Donc déjà que tu dois te battre pour les choix éducatifs ou les valeurs que tu essayes de transmettre à ton enfant, c'est un énorme truc, quoi. Je pense qu'ils doivent, c'est un boulot à temps plein, en fait, d'essayer de défendre un peu ce choix. Et j'imagine que ça doit être vraiment... douloureux à des moments. Après, ça doit être une expérience magnifique, quoi. Je pense que moi, j'aimerais bien faire ça. Enfin, c'est... nous, on a une difficulté en plus avec le français, c'est que le langage aussi est genré. Donc, on serait aussi confronté à comment on parle à notre enfant, comment on s'adresse à lui ou elle, rien que dans les mots qu'on utilise tous les jours. Donc, mais je pense que ça s'imagine. Enfin, en tout cas, c'est faisable, quoi. Voilà, après moi ce que ça peut m'évoquer aussi, c'est toujours la même, toujours un peu les questions récurrentes qui viennent comme ça quand tu fais des choix différents pour les personnes ou tes enfants, en l'occurrence les enfants avec qui tu vis, c'est dans quelle mesure ils souffrent de tes choix, toi, enfin voilà, de les avoir, de leur avoir proposé telle et telle voie qui est hors norme, on va dire. Comment l'enfant va vivre ça, effectivement, à l'école, à la crèche, dans tous les lieux de socialisation où on va bien lui faire sentir qu'il n'est pas normal ou que ce qu'il vit, ce n'est pas ce que vivent la plupart des enfants et tout. En tout cas, voilà, on peut se poser cette question-là. Je pense elle est légitime, cette question. Après, moi, je trouve que ça devrait pas du tout freiner les initiatives un peu progressistes et innovantes, parce que malgré tout, cette question-là, elle se pose pour plein de choix éducatifs qu'on peut faire. Et moi, je trouve que ça vaut le coup que l'enfant y vive d'autres choses, en fait, que la voie habituelle sur plein de sujets, quoi. Donc. Si c'est émancipateur, si c'est pour proposer des choses que la personne après peut se réapproprier et qui va la faire, je sais pas, qui va faire qu'elle est un peu plus libre, un peu plus... Enfin, moi, je trouve que ça vaut le coup d'être un peu en dehors du chemin.
Voilà. Bon, c'est vrai que là, cette situation de cette famille-là... Bon, ça va aussi dans un cadre où dans les enfants vont pas à l'école, ils font l'enseignement à la maison. Du coup, il y a une bulle un peu qui est créée autour de cette question-là. Mais du coup, il y a un peu des réactions comme ça, de questionnement par rapport à l'école. Et du coup, ouais, dans les réactions, il y a oui, ça peut être violent. Combien de temps un enfant sans genre défini tient à l'école sans que ses camarades cherchent à savoir. Et du coup, avec toute la violence qui peut être entraînée derrière et tout ça. Et du coup, là, il y a des parallèles qui sont faits aussi, pas que sur des choix, mais aussi sur, d'enfants intersexes qui ont un genre ambigu ou qui sont simplement dans des physiques ambiguës et qui... Bon, cette cruauté-là, elle existe de toute manière sur la question du genre et pas que dans vis-à-vis de Storm là qui est dans une situation où voilà la famille a fait ce choix là et
Bah oui, et puis du coup comment l'enfant va vivre ce truc là étant donné que bon même s'il va pas à l'école ou je sais pas dans quel espace d'accueil collectif, à un moment donné il va être de toute façon socialisé. Cet enfant, donc comment lui ou elle va vivre le fait de pas savoir lui-même ou elle-même, parce que de toute façon tout est construit autour de ça. Si tu veux aller faire du sport, dans quel vestiaire tu vas, si tu veux aller aux toilettes, si on pourrait citer plein d'exemples comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment il y a plein d'astuces à trouver pour ça, pour que la personne elle le vive sereinement. Mais ça vaut le coup d'y réfléchir, quoi. Ça, c'est sûr. Enfin, parce qu'il faut quand même lui donner des outils à cette personne pour qu'elle puisse être un peu armée face à ce qu'il attend, quoi. Après, ça c'est aussi contrebalancé par tout ce que cette personne elle va vivre de génial, lié au fait de pas recevoir une éducation différenciée, comme on appelle ça. Parce que quand même, faut quand même rappeler aussi que l'éducation sexiste différenciée, elle génère énormément de souffrances, en particulier pour les filles, en devenir femme. Enfin, quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas que une idée un peu loufoque. C'est quand même un choix qui se base sur une lutte, quoi, une lutte contre les discriminations, une lutte contre l'éducation différenciée qui génère des souffrances, des parcours de vie hyper difficiles pour les personnes. Donc voilà. Bon, voilà, nous, on voulait un peu raconter cette histoire-là. Du coup, on va se faire une petite pause musicale et puis enchaîner un peu sur cette thématique, mais avec un angle... d'approche un peu différent. Vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09 et là, on écoute Slater Kinney All Girls. Vous écoutez toujours Calibre, 97 FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet. Calibre, la libre antenne sur les corps, l'amour, les sexualités. Et là, du coup, on continue un peu sur la question du genre et de ce que ça peut donner en termes d'expérience.
Alors, moi, j'avais envie de vous parler d'un film qui est passé donc il n'y a pas très longtemps, le 23 octobre, sur Arte. Donc, qui s'appelait « Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre ». Et c'est un film réalisé par Valérie Mito, donc c'est un film français, qui retrace... C'est un film qui retrace le parcours de quatre personnes, quatre trans F2M, FTM, donc du féminin vers le masculin. Donc c'est un parti pris d'avoir suivi comme ça le parcours de quatre personnes qui sont dans ce processus de transition et dans ce sens-là, parce que c'est quand même un film documentaire qui parle beaucoup de la question de la masculinité, enfin, et de comment ces personnes-là vivent leur masculinité de différentes manières. Donc voilà, moi j'ai trouvé intéressant déjà que ce film, c'est pas le seul qui a été fait sur cette question des transidentités, mais je pense que c'est des films qui sont assez rares à passer à la télévision. Et à trouver des financements publics de la télévision. Du coup, j'étais assez contente que ça passe. Bon, ça passait un dimanche soir à 22h50. Mais comme souvent, oui. Il y a des sujets intéressants. Quand c'est un peu polémique, on les passe tard, comme ça. Bon, bref, c'était pas le film de 20h, quoi. Ouais. Mais pour vous en dire un petit peu plus sur ce film, moi j'ai du coup ça fait un peu le lien avec ce qu'il y avait avant. Moi j'aime l'ouverture du film. On entend une des personnes dire les gens me demandent toujours si je suis un homme ou une femme, et je leur dis mais pourquoi tu me demandes ça? J'ai l'air de savoir, moi, quelque chose comme ça. Et enfin voilà, sur une ouverture comme ça du film. Et du coup, voilà, les quatre personnes, c'est un peu aussi des... Voilà, il y a une personne qui vit à Paris, une autre à New York, une autre à San Francisco, une autre à Barcelone. Du coup, dans des réalités assez différentes, en fait, de comment elles ont vécu leur identité trans. Et voilà, donc ça explore vraiment cette question de la masculinité, donc à travers le trajet de ces personnes, et aussi à travers, on suit aussi, je sais pas, on a des images d'un atelier drag king. Mmh. C'est un atelier dans lequel on peut s'amuser à explorer, qu'on soit déjà sur des problématiques trans ou déjà aussi en tant que femme d'explorer notre part du masculin et de comment on peut le jouer, le performer, c'est quoi notre masculinité à nous, alors en passant des fois par des grands clichés et puis des fois par des choses plus fines aussi en termes de jeu de la question du genre.
De transformation du corps, de déguisement entre guillemets, enfin,
ouais,
de jouer avec les apparences.
Voilà. Du coup, il y a les stratégies physiques, esthétiques, et après ce que vivent les personnes, les parcours, donc c'est des personnes qui sont plus dans des stratégies, après elles, de traitements médicaux, enfin pas toutes, mais en tout cas de traitements hormonaux ou de chirurgie, donc on a aussi ce parcours-là. Et on a aussi, dans le film, on voit aussi un peu des groupes de discussion, notamment dans le groupe de Paris, là, on a un peu des discussions aussi en interne de ce groupe-là de personnes trans, FTM, qui racontent aussi pas mal de choses et qui questionnent sur, en tant que trans FTM, comment ces personnes, elles envisagent leur rapport aux femmes, au féminisme, aux privilèges masculins, ouais, qu'elles s'accaparent tout d'un coup, socialement, aux connivences sexistes avec les autres gars qui cherchent un peu à...
Complicité masculine.
Voilà, la complicité masculine, alors que ces personnes ont eu, à un moment donné, un vécu d'opprimé, de femme. Enfin, du coup, ça va assez loin dans tous ces questionnements liés à la masculinité et comment elle apparaît, quoi.
Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est peu abordé.
Et
je trouve dans d'autres
c'est assez peu abordé.
Supports en fait, documentaires sur cette question-là. Mm-hmm. Et dans l'interview de la réalisatrice, c'est assez présent cet aspect-là. Elle dit qu'elle a vraiment voulu donner une dimension féministe au film en mettant la lumière particulièrement aussi là-dessus, sur qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné de tout d'un coup, ou progressivement en tout cas, accéder... au privilège d'un genre qu'on vient d'endosser, enfin qu'on vient de s'attribuer, et notamment aux privilèges des hommes et qu'est-ce que ça implique. Est-ce que du coup on les refuse, est-ce qu'on fait faux bon, est-ce qu'on les adopte en apparence, enfin, et c'est vrai que c'est une vraie question politique en fait. Et ça peut faire partie aussi de combats qu'on peut mener aussi dans cette question-là de transition, quoi.
Voilà, peut-être que moi j'ai vu ce film et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, mais si vous l'avez vu aussi, donc là il passe plus sur Arte, il est passé encore une petite semaine après, j'espère qu'il pourrait être visionnable par d'autres moyens. En tout cas, si vous aussi vous avez envie de dire votre mot sur ce film, si vous l'avez vu, vous pouvez nous appeler et puis nous écrire et puis on retransmettra votre point de vue sur ces images-là. Et du coup, j'enchaîne sur un autre événement du coup lié aussi à ces questions de la transidentité, parce que le 20 novembre, c'est la journée du TEDOR. TEDOR, c'est le Transgender Day of Remembrance. J'ai un accent anglais pas terrible. En gros, ça veut dire que c'est la journée internationale en mémoire des victimes de la transphobie. J'ai vu peu d'infos sur cette journée-là, mis à part des événements qui vont se passer aux États-Unis, au Canada. En France, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors, soit j'ai mal cherché, mais en tout cas, bon, c'est pareil. Si vous avez ces infos, appelez-nous, on relaye un peu des événements. Donc, c'est autour du 20, alors ça nous laisse un peu de temps aussi d'accueillir des dates comme ça et des événements qui peuvent se passer plus en France. En tout cas, à Grenoble, il va se passer un truc. Enfin, en tout cas, il y a une projection de film qui est prévue le 20 au soir. Donc ça se passera à 19h à la BAF. C'est le local qui est nouvellement ouvert là aux deux chemins des Alpins à Grenoble. Et ce sera une projection de Tomboy.
Qui est l'histoire d'une personne comme ça qui a un parcours de vie aussi un peu lié à cette question là de la transidentité.
Bah alors c'est pas en effet c'est pas une histoire de pas comme dans le film dont je viens de parler là, documentaire où là on suit vraiment des personnes trans. Là l'histoire de Tomboy c'est quand même un peu l'histoire d'un enfant aussi qui a une dizaine d'années et qui donc on apprend assez tard dans le film. Enfin moi que c'est une petite fille qui se fait passer pour un petit garçon. Et donc tomboy, ça veut dire garçon manqué. Bon, déjà moi ce terme me dit bon, mais garçon manqué, en fait, dans mon imaginaire, un garçon manqué, ouais. C'est une fille qui a des comportements de garçon et on va dire ah c'est un garçon manqué comme moi je l'ai été ou comme. Enfin, mais du coup pour moi l'enfant qu'on voit dans Tomboy, il questionne beaucoup plus des questions de transidentité parce qu'il passe pour. Et il va trouver toutes ses stratégies auprès du groupe de potes dans lequel il va essayer de se faire une place. Il trouve tout un tas de stratégies pour passer pour un garçon.
Alors que c'est un enfant à la base biologiquement identifié fille, quoi.
Voilà, donc...
Allez voir ce film.
Allez voir ce film. C'est, bon, peut-être vous l'avez déjà vu d'ailleurs, parce qu'il est sorti au cinéma au printemps dernier, donc c'est assez récent. C'est un film de Céline Sciamma. C'est elle qui avait fait aussi La naissance des pieuvres, qui était aussi un film sur l'adolescence, et la question de la sexualité et de l'identité dans la sexualité, etc.
Donc c'est le 20 novembre à la BAF, deux chemins des Alpins à Grenoble. Et c'est à quoi ça, à 20h?
Ah oui, j'ai pas dit l'heure. Eh ben, 19h.
19h, voilà.
Voilà. Et s'il y a d'autres événements autour du TEDOR qui se passent le 20 novembre, n'hésitez pas à relayer l'info. Hein.
Carrément. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe une petite musique quand même ou on enchaîne sur l'agenda? Une petite musique, ouais. La technique nous dit oui, un petit
musique. Une petite musique.
Une petite musique. Alors, on va écouter La Bruja.
Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana. ay qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 ¿no ve? Que ando en pretensiones de chuparme usted.
Vous écoutez toujours Calibre 97FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet, l'antenne libre sur les corps, l'amour, les sexualités. Et ben du coup, on va terminer sur l'agenda. Un agenda bien fourni, du coup, on voulait avoir un peu de temps pour annoncer des événements qui nous tenaient un peu à cœur. Alors, peut-être je pourrais commencer par les 50 ans du planning familial. Elles organisent une fête à cette occasion. Les 50 ans de la première permanence tenue à Grenoble du mouvement français pour le planning familial. Elles nous ont demandé de relayer cette info, on le fait avec plaisir. Et ça se passera le 25 novembre à Ève, donc sur le campus universitaire de Grenoble, à 20h je pense, ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, vous pouvez trouver les infos sur Internet, sur le site du planning, ou nous écrire à l'adresse de Calibre, on vous répondra là-dessus. Un autre événement, je te laisse enchaîner.
Allez, demain par exemple, oui. Comme ça c'est rapide. Ah bah non, demain il y a l'émission, on n'est pas des cadeaux, d'accord, mais non, c'était pas demain, c'est lundi 14, à 18h, donc ça se passera à Ève, sur la fac de Grenoble. Et c'est une projection, discussion autour d'un film qui s'appelle « Le clitoris, ce cher inconnu ». Donc voilà, 18h à Ève.
Discussion qui sera notamment animée par Mimi de l'émission Calibre.
le même jour, à 19h, il y aura une écoute collective de l'émission Dégenrée, qui est aussi une émission qui passe sur Kaleidoscope. Et l'écoute collective, ça se passe aussi à la BAF. Deux chemins de
des Alpins.
Des Alpins. Et cette émission sera autour des féministes blanches et de l'aveuglement face au racisme. Voilà, donc c'est la thématique de cette émission de lundi. Enfin, c'était l'émission de mercredi, mais ce qu'on écoutera le lundi, c'est une rediffusion.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à annoncer? Oui, à la venue de Marie-Jo Bonnet, qui est une chercheuse féministe, en fait, qui va venir sur Grenoble pour présenter son nouveau bouquin, qui parle de Violette Maurice, un peu, elle a intitulé ça Violette Maurice, histoire d'une scandaleuse. Donc, un personnage comme ça du début du siècle, non, du siècle dernier d'ailleurs, puisqu'on est en tout cas de la fin du 19e siècle. Un personnage qui s'est un peu qui a été rendu public parce que voilà, c'était une femme un peu comme elle dit, scandaleuse, qui répondait pas à ses caractéristiques de genre, pour le coup, et qui était un peu intrépide comme ça, lesbienne, et puis qui s'habillait un peu en garçon, et puis voilà, qui faisait des choses pas inhabituelles, on va dire, pour une femme. Voilà, et donc ça se passera le 25 novembre aussi. Alors il y a de la concurrence hein, là. Au local de Cigale qui est le local de l'association Les Voix d'Elle à 19h30.
Et puis un autre événement qu'on peut annoncer aussi dès aujourd'hui, mais on vous le rappellera parce que c'est dans longtemps, c'est le samedi 26, il y a une marche de nuit
à Lyon
en non-mixité femmes, à 19h, place du Pont, c'est le rendez-vous. Alors dans l'invitation non-mixité femmes, c'est des personnes qui se définissent comme femmes ou qui l'ont été, ou qui, voilà, donc...
Donc c'est femmes, gouines, trans, quoi. Voilà, mais effectivement, ça, c'est des dates qu'on rappellera au cours des prochaines émissions. En tout cas, nous, on a envie de l'annoncer dès maintenant. Comme ça, ça fait son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'on a fait le tour, là, de ce qu'on voulait annoncer pour l'agenda. Du coup, nous, il est 21h. On va se quitter. Et du coup, on vous dit à jeudi prochain, même heure. Même numéro de téléphone, 04 76 09 09 09. Vous pouvez toujours aussi nous écrire à l'adresse mail de l'émission Calibre, k-libre au pluriel, @poivron.org. Ça nous arrive aussi très souvent de raconter un peu des témoignages qu'on reçoit par mail, et ça permet aussi d'avoir des discussions d'une autre manière. Bon, nous, on préfère toujours que vous nous appeliez, mais en tout cas, c'est possible aussi de nous écrire, et ça nous fait toujours plaisir. On a également un site internet dont l'adresse est k-libre.poivron.org cette fois-ci, et vous trouverez sur le site de l'émission toutes les émissions que vous pouvez écouter en boucle le nombre de fois que vous voulez, et en tout cas que vous pouvez télécharger librement et écouter dans votre voiture, dans votre bain, dans votre salon, dans votre cuisine, seul ou à plusieurs, C'est nous, on aime bien que les gens nous écoutent en direct, mais c'est bien aussi de nous écouter en différé. Donc voilà, vous pouvez télécharger les émissions sur le site. Vous trouverez aussi sur le site toutes les infos nécessaires pour nous joindre ou retrouver les coordonnées de la radio, etc. Enfin voilà. Alors du coup, bonne soirée et à jeudi prochain.
Allez, salut.
Ciao, ciao. Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09. Thank you.